Voyage d'amour, deuxième partie, chapitre 1. Un matin, Hélène s'occupait à ranger sa petite bibliothèque, dont elle bouleversait les livres depuis quelques jours, lorsque Jeanne entra en sautant, en tapant des mains. « Maman ! » cria-t-elle. « Un soldat ! Un soldat !»«
Quoi, un soldat ?» dit la jeune femme. « Qu'est-ce que tu me veux avec ton soldat ?»
Mais l'enfant était dans un de ses accès de folie joyeuse. Elle sautait plus fort, elle répétait
« Un soldat ! Un soldat !»
sans s'expliquer davantage. Alors, comme elle avait laissé la porte de la chambre ouverte, Hélène se leva, et elle fut toute surprise d'apercevoir un soldat, un petit soldat, dans l'antichambre. Rosalie était sortie. Jeanne devait avoir joué sur le palier, malgré la défense formelle de sa mère.
« Qu'est-ce que vous désirez, mon ami ?»
demanda Hélène. Le petit soldat, très troublé par l'apparition de cette dame, si belle et si blanche dans son peignoir garni de dentelles, frottait un pied sur le parquet, saluait, balbutiait précipitamment « Pardon, excuse !» Et il ne trouvait rien autre chose. Il reculait jusqu'au mur, en traînant toujours les pieds. Ne pouvant aller plus loin, voyant que la dame attendait avec un sourire involontaire, il fouilla vivement dans sa poche droite, dont il tira un mouchoir bleu, un couteau et un morceau de pain. Il regardait chaque objet, l'engouffrait de nouveau. Puis, il passa à la poche gauche. Il y avait là un bout de corde, deux clous rouillés, des images enveloppées dans la moitié d'un journal. Il renfonça le tout, il tapa sur ses cuisses d'un air anxieux, et il bégayait, ahuri, « Pardon, excuse !» Mais brusquement, il posa un doigt contre son nez en éclatant d'un bon rire. L'imbécile, il se souvenait. Il ôta deux boutons de sa capote, fouilla dans sa poitrine, où il enfonça les bras jusqu'au coude. Enfin, il sortit une lettre, qu'il secoua violemment comme pour en enlever la poussière, avant de la remettre à Hélène.
« Une lettre pour moi, vous êtes sûre ?» dit celle-ci.
L'enveloppe portait bien son nom et son adresse, d'une grosse écriture paysanne, avec des jambages qui se culbutaient comme des capucins de cartes. Et dès qu'elle fut parvenue à comprendre, arrêtée à chaque ligne par des tournures et une orthographe extraordinaire, elle eut un nouveau sourire. C'était une lettre de la tante de Rosalie, qui lui envoyait Zéphirin la cour, tombé au sort, malgré deux messes dites par monsieur le curé. Alors, attendu que Zéphirin était l'amoureux de Rosalie, elle priait madame de permettre aux enfants de se voir le dimanche. Il y avait trois pages où cette demande revenait dans les mêmes termes, de plus en plus embrouillée, avec un effort constant de dire quelque chose qui n'était pas dit. Puis, avant de signer, la tante semblait avoir trouvé tout d'un coup et elle avait écrit « Monsieur le curé le permet !» en écrasant sa plume au milieu d'un éclaboussement de pâté. Hélène plia lentement la lettre. Tout en la déchiffrant, elle avait levé deux ou trois fois la tête pour jeter un coup d'œil sur le soldat. Il était toujours collé contre le mur et ses lèvres remuaient. Il paraissait appuyer chaque phrase d'un léger mouvement du menton. Sans doute, il savait la lettre par cœur.
« Alors, c'est vous qui êtes Zéphirin Lacour ?» dit-elle.
Il se mit à rire et il branla le cou. « Entrez, mon ami, ne restez pas là !» Il se décida à la suivre, mais il se tint debout près de la porte pendant qu'Hélène s'asseyait. Elle l'avait mal vu dans l'ombre de l'antichambre. Il devait avoir juste la taille de Rosalie, un centimètre de moins, et il était réformé. Les cheveux roux, tondus très ras, sans un poil de barbe, il avait une face toute ronde, couverte de son, percé de deux yeux minces comme des trous de vrille. Sa capote neuve, trop grande pour lui, l'arrondissait encore. Et les jambes écartées dans son pantalon rouge, pendant qu'il balançait devant lui son képi à large visière, Il était drôle et attendrissant, avec sa rondeur de petit bonhomme bêta, sentant le labour sous l'uniforme. Hélène voulut l'interroger, obtenir quelques renseignements. « Vous avez quitté la Beauce il y a 8 jours ?»«
Oui, madame. »«
Et vous voilà à Paris. Vous n'en êtes pas fâchée ?»«
Non, madame. »
Il s'enhardissait. Il regardait dans la chambre, très impressionné par les tentures de velours bleu.
« Rosalie n'est pas là, » reprit Hélène. « Mais elle va rentrer. Sa tante m'apprend que vous êtes son bon ami. »
Le petit soldat ne répondit pas. Il baissa la tête, en riant d'un air gauche, et se remit à gratter le tapis du bout de son pied.
« Alors, vous devez l'épouser quand vous sortirez du service ?» continua la jeune femme.
« Bien sûr, » dit-il en devenant très rouge, « bien sûr, c'est juré. »
Mais, gagné par l'air bienveillant de la dame, tournant son képi entre ses doigts, il se décida à parler.
« Oh, il y a beau temps. Quand nous étions tout petits, nous allions à la maraude ensemble. Nous avons joliment reçu des coups de gaule. Pour ça, c'est bien vrai. Il faut dire que les Lacour et les Pichon demeuraient dans la même traverse, côte à côte. Alors, n'est-ce pas, la Rosalie et moi, nous avons été élevés quasiment à la même écuelle. Puis tout son monde est mort. Sa tante Marguerite lui a donné la soupe. Mais elle, la matine, elle avait déjà des bras du tonnerre. »
Il s'arrêta, sentant qu'il s'enflammait, et il demanda d'une voix hésitante,
« Peut-être bien qu'elle vous a conté tout ça ?»«
Oui, mais dites toujours, » répondit Hélène, qu'il amusait.
« Enfin, » reprit-il, « elle était joliment forte, quoique pas plus grosse qu'une mauviette. Elle vous troussait la besogne, fallait voir. Tenez, un jour, elle a allongé une tape à quelqu'un de ma connaissance. Oh, une tape, j'en ai gardé le bras noir pendant 8 jours. Oui, c'est venu comme ça. Dans le pays, tout le monde nous marie ensemble. Alors, nous n'avions pas 10 ans que nous nous sommes topés dans la main. Et ça tient, madame, ça tient. »
Il posait une main sur son cœur en écartant les doigts. Hélène, pourtant, était redevenue grave. Cette idée d'introduire un soldat dans sa cuisine l'inquiétait. Monsieur le curé avait beau le permettre, elle trouvait cela un peu risqué. Dans les campagnes, on est fort libre, les amoureux vont bon train. Elle laissa voir ses craintes. Quand Zéphirin eut compris, il pensa crever de rire, mais il se retenait, par respect.
« Oh, madame, oh, madame, on voit bien que vous ne la connaissez point. J'en ai reçu des calottes. Mon Dieu, les garçons, ça aime à rire, n'est-ce pas? Je la pinçais des fois. Alors, elle se retournait et vlan, en plein museau. C'est sa tante qui lui répétait. Vois-tu, ma fille, ne te laisse pas chatouiller, ça ne porte pas chance. Le curé aussi s'en mêlait, et c'est peut-être bien pour ça que notre amitié tient toujours. On devait nous marier après le tirage au sort. Puis, va te faire fiche, les choses ont mal tourné. La Rosalie a dit qu'elle servirait à Paris pour s'amasser une dot en m'attendant. Et voilà, et voilà. »
Il se dandinait, passait son képi d'une main dans l'autre. Mais comme Hélène gardait le silence, il crut comprendre qu'elle doutait de sa fidélité. Cela le blessa beaucoup. Il s'écria avec feu,
« Vous pensez peut-être que je la tromperai ? Puisque je vous dis que c'est juré, je l'épouserai, voyez-vous, aussi vrai que le jour nous éclaire. Et je suis tout prêt à vous signer ça. Oui, si vous voulez, je vais vous signer un papier. »
Une grosse émotion le soulevait. Il marchait dans la chambre, cherchant des yeux s'il n'apercevait pas une plume et de l'encre. Hélène tenta vivement de le calmer. Il répétait,
« J'aimerais mieux vous signer un papier. Qu'est-ce que ça vous fait? Vous seriez bien tranquille ensuite. »
Mais juste à ce moment, Jeanne, qui avait disparu de nouveau, rentra en dansant et en tapant des mains.
« Rosalie, Rosalie, Rosalie !»
chantait-elle sur un air sautillant qu'elle composait. Par les portes ouvertes, on entendit en effet l'essoufflement de la bonne qui montait, chargée de son panier. Zéphirin recula dans un coin de la pièce.
Un rire silencieux fendait sa bouche d'une oreille à l'autre, et ses yeux en trou de vrille luisaient d'une malice campagnarde. Rosalie entra droit dans la chambre, comme elle en avait l'habitude familière, pour montrer les provisions du matin à sa maîtresse. « Madame, dit-elle, j'ai acheté des choux-fleurs. Voyez donc, 2 pour 18 sous, ce n'est pas cher. » Elle tendait son panier entr'ouvert, lorsqu'en levant la tête, elle aperçut Zéphirin qui ricanait. Une stupeur la cloua sur le tapis. Il s'écoula 2 ou 3 secondes. Elle ne l'avait sans doute pas reconnu tout de suite sous l'uniforme. Ses yeux ronds s'agrandirent, sa petite face grasse devint pâle, tandis que ses durs cheveux noirs remuaient. « Oh ! » dit-elle simplement. Et de surprise, elle lâcha son panier. Les provisions roulèrent sur le tapis, les choux-fleurs, les oignons, des pommes. Jeanne, enchantée, poussa un cri et se jeta par terre, au milieu de la chambre, courant après les pommes, jusque sous les fauteuils et l'armoire à glace. Cependant, Rosalie, toujours paralysée, ne bougeait pas, répétait « Comment ? C'est toi ? Qu'est-ce que tu fais là, dis ? Qu'est-ce que tu fais là ?» Elle se tourna vers Hélène et demanda « C'est donc vous qui l'avez laissé entrer ?» Zéphirin ne parlait pas, se contentait de cligner les paupières d'un air malin. Alors, des larmes d'attendrissement montèrent aux yeux de Rosalie. Et pour témoigner sa joie de le revoir, elle ne trouva rien de mieux que de se moquer de lui. « Ah, va !» reprit-elle en s'approchant. « T'es jolie, t'es propre avec cet habit-là. J'aurais pu passer à côté de toi, je n'aurais pas seulement dit « Dieu te bénisse !» Comme te voilà fait, t'as l'air d'avoir ta guérite sur ton dos. Et ils t'ont joliment rasé la tête. Tu ressembles au caniche du Saint-Christin. Bon Dieu, que t'es laid, que t'es laid !» Zéphirin, vexé, se décida à ouvrir la bouche. « Ce n'est pas ma faute, bien sûr. Si on t'envoyait au régiment, nous verrions un peu. » Ils avaient complètement oublié où ils se trouvaient, et la chambre, et Hélène, et Jeanne, qui continuaient à ramasser les pommes. La bonne s'était plantée debout devant le petit soldat, les mains nouées sur son tablier. « Alors, tout va bien là-bas ? » ?»« Mais oui, sauf que la vache des guignards est malade. » L'artiste est venu et il leur a dit comme ça qu'elle était pleine d'eau. Si elle est pleine d'eau, c'est fini. À part ça, tout va bien? Oui, oui. Il y a le garde champêtre qui s'est cassé le bras. Le père Canivet est mort. Monsieur le curé a perdu sa bourse où il y avait 30 sous en revenant de Grandeval. Autrement, tout va bien. Et ils se turent. Ils se regardaient avec des yeux luisants, les lèvres pincées. Et lentement remuée dans une grimace tendre, ce devait être leur façon de s'embrasser, car ils ne s'étaient pas même tendu la main. Mais Rosalie sortit tout à coup de sa contemplation, et elle se désola en voyant ses légumes par terre. Un beau gâchis! Il lui faisait faire de propres choses. Madame aurait dû le laisser attendre dans l'escalier. Tout en grondant, elle se baissait, remettait au fond du panier les pommes, les oignons, les choux-fleurs, à la grande contrariété de Jeanne, qui ne voulait pas qu'on l'aidât. Et, comme elle s'en allait dans sa cuisine, sans regarder davantage Zéphirin, Hélène, gagnée par la tranquille santé des deux amoureux, la retint pour lui dire « Écoutez, ma fille, votre tante m'a demandé d'autoriser ce garçon à venir vous voir le dimanche. Il viendra l'après-midi, et vous tâcherez que votre service n'en souffre pas trop. » Rosalie s'arrêta. Tourna simplement la tête. Elle était bien contente, mais elle gardait son air grognon. « Oh, madame, il va joliment me déranger » cria-t-elle. Et par-dessus son épaule, elle jeta un regard sur Zéphirin et lui fit de nouveau sa grimace tendre. Le petit soldat resta un moment immobile, la bouche fendue par son rire muet. Puis il se retira à reculons, en remerciant et en posant son képi contre son cœur. La porte était fermée, qu'il saluait encore sur le palier. « Maman, c'est le frère de Rosalie ?» demanda Jeanne. Hélène demeura tout embarrassée devant cette question. Elle regrettait l'autorisation qu'elle venait d'accorder dans un mouvement de bonté subite dont elle s'étonnait. Elle chercha quelques secondes, elle répondit « Non, c'est son cousin. »«
Ah !» dit gravement l'enfant.
La cuisine de Rosalie donnait sur le jardin du docteur de Berle, en plein soleil. L'été, par la fenêtre, très large, les branches des ormes entraient. C'était la pièce la plus gaie de l'appartement, toute blanche de lumière, si éclairée même que Rosalie avait dû poser un rideau de cotonnade bleue qu'elle tirait l'après-midi. Elle ne se plaignait que de la petitesse de cette cuisine, qui s'allongeait en forme de boyau, le fourneau à droite, une table et un buffet à gauche. Mais elle avait si bien casé les ustensiles et les meubles qu'elle s'était ménagée, près de la fenêtre, un coin libre où elle travaillait le soir. Son orgueil était de tenir les casseroles, les bouilloires, les plats dans une merveilleuse propreté. Aussi, lorsque le soleil arrivait, un resplendissement rayonnait des murs. Les cuivres jetaient des étincelles d'or, les fers battus avaient des rondeurs éclatantes de lune d'argent, tandis que les faïences bleues et blanches du fourneau mettaient leurs notes pâles dans cet incendie. Le samedi suivant, dans la soirée, Hélène entendit un tel remue-ménage qu'elle se décida à aller voir.
« Qu'est-ce donc ? » demanda-t-elle. « Vous vous battez avec les meubles ?»«
Je lave, madame, » répondit Rosalie, ébouriffée et suante, accroupie par terre, en train de frotter le carreau de toute la force de ses petits bras. C'était fini, elle épongeait. Jamais elle n'avait fait sa cuisine aussi belle. Une mariée aurait pu y coucher. Tout y était blanc, comme pour une noce. La table et le buffet semblaient rabotés à neuf, tant elle y avait usé ses doigts. Et il fallait voir le bel ordre, les casseroles et les pots par rang de grandeur, chaque chose à son clou, jusqu'à la poêle et au grill qui reluisaient, sans une tache de fumée. Hélène resta là un instant, silencieuse. Puis, elle sourit et se retira. Alors, chaque samedi, ce fut un nettoyage pareil. 4 heures passées dans la poussière et dans l'eau. Rosalie voulait, le dimanche, montrer sa propreté à Zéphirin. Elle recevait ce jour-là. Une toile d'araignée lui aurait fait honte. Lorsque tout resplendissait autour d'elle, cela la rendait aimable et la faisait chanter. À 3 heures, elle se lavait encore les mains, elle mettait un bonnet avec des rubans. Puis, tirant à demi le rideau de cotonnade, ménageant un jour de boudoir, elle attendait Zéphirin au milieu du bel ordre, dans une bonne odeur de thym et de laurier. À 3h30 exactement, Zéphirin arrivait. Il se promenait dans la rue, tant que la demie n'avait pas sonné aux horloges du quartier. Rosalie écoutait ses gros souliers buter contre les marches, et lui ouvrait, quand il s'arrêtait sur le palier. Elle lui avait défendu de toucher au cordon de sonnette. Chaque fois, ils échangeaient les mêmes paroles.
« C'est toi ?»«
Oui, c'est moi. » Et ils restaient nez à nez, avec leurs yeux pétillants et leurs bouches pincées. Puis Zéphirin suivait Rosalie. Mais elle l'empêchait d'entrer avant qu'elle l'eût débarrassée de son shako et de son sabre. Elle ne voulait point de ça dans sa cuisine. Elle cachait le sabre et le shako au fond d'un placard. Alors, elle asseyait son amoureux près de la fenêtre, dans le coin ménagé là, et elle ne lui permettait plus de remuer.
« Tiens-toi tranquille, tu me regarderas faire le dîner de madame, si tu veux. »
Mais il ne venait presque jamais les mains vides. Ordinairement, il avait employé sa matinée à courir avec des camarades les bois de Meudon, traînant les pieds dans des flâneries sans fin, oisifs et buvant le grand air avec le regret vague du pays. Pour occuper ses doigts, il coupait les baguettes, les taillait, les enjolivait en marchant de toutes sortes d'arabesques. Et son pas se ralentissait encore. Il s'arrêtait près des fossés, le shako sur la nuque, les yeux ne quittant plus son couteau qui fouillait le bois. Puis, comme il ne pouvait se décider à jeter ses baguettes, il les apportait l'après-midi à Rosalie, qui les lui enlevait des mains en criant un peu, parce que cela salissait la cuisine. La vérité était qu'elle les collectionnait. Elle en avait sous son lit un paquet de toutes les longueurs et de tous les dessins. Un jour, il arriva avec un nid plein d'œufs qu'il avait placé dans le fond de son shako, sous son mouchoir. C'était très bon, disait-il, les omelettes avec les œufs d'oiseaux. Rosalie jeta cette horreur, mais elle garda le nid qui alla rejoindre les baguettes. D'ailleurs, il avait toujours ses poches pleines à crever. Il en tirait des curiosités, des cailloux transparents pris au bord de la Seine, d'anciennes ferrures, des baies sauvages qui se séchaient, des débris méconnaissables dont les chiffonniers n'avaient pas voulu. Sa passion était surtout les images. Le long des routes, il ramassait les papiers qui avaient enveloppé du chocolat ou des savons, et sur lesquels on voyait des nègres et des palmiers, des aimés et des bouquets de roses. Les dessus des vieilles bottes crevées, avec des dames blondes et rêveuses, les gravures vernies et le papier d'argent des sucres de pomme, jetés dans les foires des environs, étaient ses grandes trouvailles qui lui gonflaient le cœur. Tout ce butin disparaissait dans ses poches. Il enveloppait d'un bout de journal les plus beaux morceaux. Et le dimanche, quand Rosalie avait un moment à perdre, entre une sauce et un rôti, il lui montrait ses images. C'était pour elle, si elle voulait. Seulement, comme le papier autour n'était pas toujours propre, il découpait les images, ce qui l'amusait beaucoup. Rosalie se fâchait. Des brins de papier s'envolaient jusque dans ses plats. Et il fallait voir avec quelle malice de paysan, tiré de loin, il finissait par s'emparer de ses ciseaux. Parfois, pour se débarrasser de lui, elle les lui donnait brusquement. Cependant, un roux chantait dans un poêlon. Rosalie surveillait la sauce, une cuillère de bois à la main, pendant que Zéphirin, la tête penchée, le dos élargi par ses épaulettes rouges, découpait des images. Ses cheveux étaient tellement ras qu'on lui voyait la peau du crâne, et son collet jaune bâillait par derrière, montrant le hâle du cou. Pendant des quarts d'heure entiers, tous deux ne disaient rien. Lorsque Zéphirin levait la tête, il regardait Rosalie prendre de la farine, hacher du persil, saler et poivrer, d'un air profondément intéressé. Alors, de loin en loin, une parole lui échappait. « Fichtre, ça sent trop bon !» La cuisinière, en plein coup de feu, ne daignait pas répondre tout de suite. Au bout d'un long silence, elle disait à son tour « Vois-tu, il faut que ça mijote !» Et leur conversation ne sortait guère de là. Ils ne parlaient même plus du pays. Lorsqu'un souvenir leur revenait, ils se comprenaient d'un mot et riaient en dedans, toute l'après-midi.